Bienvenue à l'aventure, Robert Blondin ici. Aujourd'hui, l'aventure de Michel Marcouillet. Je connais Michel Marcouillet depuis très longtemps. On s'est vu dans différentes circonstances. Au total, on s'est vu plus souvent en jouant aux cartes que d'autres choses. Il y en a qui ont fait plus d'autres choses avec lui que ça. Mais c'est un gars que j'aime beaucoup. C'est un gars entier, un homme intéressant qui a suivi ses babines, comme disaient d'autres, qui a fait ce qu'il ressentait, ce qu'il pensait. Michel, tu fais une chose qui fascine beaucoup de gens, qui est la grande randonnée. La grande randonnée de grande distance, sac au dos, on part en montagne. Parle-moi un peu de cette passion-là, parce que c'est pas accessible à tout le monde, me semble.
C'est-à-dire, oui, c'est pas accessible à tout le monde, dans le sens que c'est exigeant. Ça demande un minimum de forme, quoi, que ça s'acquiert. Faut aimer la nature, puis faut pas avoir peur d'être tout seul, parce que souvent, on randonne tout seul. Moi, ça me vient, c'est pas récent, là. Ça me vient depuis que je suis tout petit. Et c'est basé en bonne partie sur, je dirais, deux éléments. Le goût de me dépasser et l'amour de la nature. Mais c'est avant tout l'amour de la nature. Et ça, j'ai ça depuis que je suis tout petit avec mon grand-père, avec qui j'allais à la pêche pendant des journées de temps, quand j'avais à partir de 3 ans. Avec moi, je viens de Shawinigan, grand-mère, avec mes oncles, mon père, mes cousins, à la chasse, à la pêche, aux randonnées de canots, etc. J'ai été chez les scouts. Et donc, c'est depuis tout le temps. Donc, j'ai commencé ça très jeune, puis j'ai jamais arrêté. Et ça prend différentes formes, dont celle-là.
Tu en as fait différentes, mais tu as entrepris de faire une immense randonnée qui est mythique en Amérique du Nord, non?
Oui. C'est l'Appalachian Trail qui part du nord du Maine et qui va jusqu'en Géorgie. C'est 3500 kilomètres. J'en ai fait 2500 jusqu'à maintenant. Il y a deux types de randonneurs, ou deux types principaux de randonneurs. Il y en a ce qu'on appelle les « true hikers », donc des gens qui le font d'un trait. Ça dure à peu près 5-6 mois. Et ceux qui le font par section, ce qui est mon cas. Donc, je l'ai fait par des petits bouts des fois, des plus longs bouts d'autres fois. Là, j'essaye d'en faire un petit peu plus pour, évidemment, le terminer, quoique ce n'est pas un objectif ultime.
Quand tu pars en autonomie complète, là. C'est sac à dos, tout est là-dedans. Tu vas pas, t'arrêtes pas dans des villages à chaque soir, là.
Non, quoique, ben, ça dépend des coins. Entre le nord du Maine puis le Vermont, disons, même le sud du Vermont, t'es pas mal tout le temps sur le sentier, mais tu sors à peu près, ça dépend des gens, là, mais... À tous les 5 jours, jusqu'à 7-8 jours pour t'approvisionner. Mais sinon, tu es tout le temps sur le sentier. Là. Ou des fois, ce que là, avec le temps, je suis un petit peu plus raisonnable. Je prends des pauses. Donc, une fois par semaine, ce qu'on appelle des « zero days », c'est-à-dire une journée où tu ne randonnes pas pour te reposer et faire tes provisions, là, t'arrêtes. Tu vas dans un village en général ou peut-être dans une petite ville.
Qu'est-ce que tu as dans ton sac?
Ça a beaucoup évolué. J'ai eu beaucoup de choses au début. Là, j'en ai beaucoup moins. Au début, mes sacs, j'avais des provisions pour beaucoup plus longtemps. Maintenant, j'essaie de diminuer les périodes d'approvisionnement. Et là, je suis de l'école ultra-légère. Évidemment, c'est toute une grosse business, ces affaires-là. Il y a toutes sortes de monde qui veulent te vendre le truc qui va peser 2 grammes de moins que l'autre, mais pour 100 piastres de plus, disons, j'exagère. Là, mais... Donc, au départ, c'est quand je prépare mon sac, là, c'est le coucher. Qu'est-ce que j'ai besoin pour coucher? La tente, le sac de couchage, le matelas de sol, essentiellement, c'est ça. La bouffe, le petit réchaud. La nourriture comme telle.
Qui est lyophilisée, là?
Oui, en général, oui, mais c'est peut-être des pâtes aussi avec des choses que j'ai préparées qui vont faire de la sauce. Mais en général, c'est peut-être la moitié du temps lyophilisé. Mais c'est pas des conserves, là, parce que le but, c'est d'être léger, là. Et c'est les vêtements, encore là, pour être confortable, mais pas trop confortable non plus, parce que tu réalises après un bout de temps. C'est une question d'expérience aussi, là, que tu n'as pas vraiment besoin de tant de choses que ça, sinon l'essentiel. Là.
La tente?
La tente, je suis passé d'une tente très, très confortable qui pesait, disons, 5-6 livres. Et là, j'ai une tente ultra-technique, qui pèse un petit peu plus qu'une livre. Mais confortable, bonne pour 2 personnes.
Mais il peut pleuvoir pendant des jours et des jours, tu fais quoi?
Tu marches. T'es là pour marcher, tu marches. La pluie n'est pas un obstacle. Les éléments ne doivent pas être un obstacle. C'est sûr que s'il y a des ouragans, comme j'ai eu l'année passée en Virginie, c'est pas tellement la pluie que le danger qu'un arbre tombe dessus, là. Ça, c'était notre principale crainte. Je randonnais avec des amis américains. Mais sinon, la pluie, même que des fois, durant la même randonnée, je préfère avoir 5 jours de pluie de suite. Tu arrives le soir, t'es mouillé. Tu te mets tout nu dans ton sac de couchage avec quelques vêtements secs. Le lendemain, tu remets tes vêtements mouillés.
Aïe, aïe.
Mais à un moment donné, ça sèche sur toi aussi, mouillé encore, là, ça continue à être mouillé.
Mais ça peut durer des jours et des jours.
Oui, mais j'aime mieux quasiment la pluie des jours et des jours que les grosses chaleurs des jours et des jours. J'ai bien plus peur de la grosse chaleur là, que de la grosse pluie, personnellement.
Mais il faut être dans une forme physique exceptionnelle, parce que ça s'appelle monter des montagnes une après l'autre sans arrêt, là.
Oui, disons que...
T'es dans les Appalaches, alors c'est
des
montagnes.
Oui, donc disons que il y a des montagnes partout, là.
Oui.
Et tu passes sur la crête des montagnes, forcément, là, c'est ça l'idée. Du nord du Maine jusqu'à la frontière Massachusetts-Vermont, il y a de la grosse montagne, là. C'est toutes les montagnes qu'on connaît du New Hampshire, dont les Presidential, Mount Washington, puis tout ça. Les éléments peuvent être assez exigeants aussi. Mais c'est rough, oui. C'est assez rough. Plus au sud, ben là, c'est aléatoire. Mais il y a des places où on pense pas qu'il y a des grosses montagnes, puis qu'il y en a. Là. Puis évidemment, quand tu arrives en Virginie, avec le Blue Ridge, les Smokies, tout ça, là, c'est de la grosse montagne aussi.
Est-ce que tu as eu des problèmes sérieux, physiques?
Oui, je me suis déchiré des ménisques 2 fois. J'ai été obligé de faire une chirurgie des genoux 2 fois. Qui m'ont mis sur la touche là, pendant un certain nombre de mois.
Quand ça t'arrive, ça te donne pas le goût d'arrêter de faire ça?
Ça me donne le goût d'être plus prudent la prochaine fois, parce que ça t'arrive tout le temps quand t'es fatigué, puis tu glisses une roche, puis ton sac à dos est pesant, puis ça t'amène dans une direction où tu veux te protéger, puis là... Non, j'essaie d'être plus raisonnable, puis d'être plus en forme quand je pars. Mais non, tant que je vais pouvoir marcher...
Mais Michel, grimper des montagnes, il pleut, c'est désagréable, il peut faire froid.
Ouais.
Tu manges pas nécessairement ton goût. Pourquoi tu fais ça?
Non, mais écoute, tu peux pas savoir, Robert, à quel point je peux être heureux. Non, mais c'est plate à dire.
Non, non, mais OK.
Mais ça, c'est pas la majeure partie du temps, là. Il fait beau, comme ce printemps, là. T'es au printemps, il fait beau. Là, tu vois progresser tous les tons de vert dans la forêt. T'es dans les rhododendrons. Je m'arrête. Je suis pas là comme un cheval qui rentre à l'écurie, là, je prends mon temps, je m'arrête, je regarde, tu traverses des rivières, tu vois des chutes. La nature est absolument extraordinaire. Là. C'est 90 % du temps, c'est du bonheur. Là.
Les autres, tu fais ça souvent seul, pas toujours avec des gens?
J'en ai fait un petit bout dans le Nord, surtout avec ma conjointe dans le temps, ma blonde Brigitte, qui était une fille très volontaire et très, très en forme. Sinon, je pars seul, mais j'ai rencontré des gens. Entre autres, il y a 2 ans, j'ai randonné avec eux sur une période d'un an. Des Américains, très sympathiques. C'est aussi la rencontre que tu fais des gens, là.
Je peux pas ne pas te dire que ça fait penser à Compostelle.
Je n'ai pas fait Compostelle, mais c'est pas. Mais à ma connaissance, c'est pas tout à fait la même chose.
Physiquement, non, parce que c'est.
Et c'est que.
Rencontrer des gens et jaser avec les gens, c'est ça aussi. Non?
Ouais, mais de ce qu'on me dit de Compostelle, c'est que si tu te retrouves dans une auberge.
À tous les soirs.
Puis là, y a les gens peuvent boire du vin, puis tout ça. Alors que moi, c'est aussi la solitude, là. C'est-à-dire que. Normalement, c'est pas tout le temps comme ça, mais normalement, tu couches à un endroit désigné. Il y a un point d'eau, il y a des toilettes, etc., pour pas que tout le monde couche partout dans le bois.
C'est des
relais? Oui, c'est des abris, là, ce qu'on appelle des lean-to, là, avec un côté ouvert, les côtés fermés. Mais moi, je tends à dormir la plupart du temps dans ma tente, peu importe les éléments, là, à moins qu'il y ait des gros problèmes, là. Et là, tu t'en vas un petit peu plus loin dans le bois, puis t'es seul. Donc, t'es pas obligé de parler au monde si tu veux pas, là. Alors que Compostelle, j'imagine qu'il y a du monde alentour, puis c'est pas... Donc, en termes de solitude, ce dont j'ai l'impression, puis j'exclus pas que je pourrais faire Compostelle à un moment donné, mais ce dont j'ai l'impression, c'est qu'il y a moins de contact avec la nature, moins de solitude, moins de dépassement... Et c'est ça qui m'attire sur la Appalachian Trail. Donc, ce que je ne retrouverais peut-être pas tout à fait sur Compostelle. Puis, il y a le côté, je dois dire, que je suis un humaniste. Et toute la partie religieuse de Compostelle, même si elle est peut-être mince à plusieurs égards, ça, j'ai un petit peu de misère avec ça, personnellement.
Les animaux sauvages dans ces montagnes-là, dans ces forêts-là?
Ah ben oui, il y a des animaux sauvages, par définition, là. Surtout au Maine, c'est absolument extraordinaire. Au Maine, ce que tu vois le plus, c'est des orignaux. Quand tu marches seul, tu fais pas de bruit, tu sais qu'il y a un lac à 1 km, il y a des bonnes chances, si c'est un lac un peu marécageux, que tu arrives là puis que tu vois des orignaux, ce qui est absolument magnifique, là. Tu peux t'approcher, s'asseoir sur une roche à 11 h le matin avec le soleil, puis tu as 5 orignaux puis avec des petits qui mangent devant toi, tu peux rester 1 heure de temps sans bouger, là. Les gens te demandent tout le temps, mais t'as pas peur, coucher dans le bois, parce que des fois, j'aime ça coucher en dehors des sentiers battus, là, t'es vraiment tout seul dans le bois, soi-disant avec les animaux sauvages. Mais les animaux sauvages, pas dangereux, là. Ils essayent toujours de t'éviter, là. L'ours cherche pas l'humain, là. Donc, oui, t'entends des loups, des coyotes, j'ai rencontré des ours. Mais je peux pas dire que j'ai déjà eu peur, même en rencontrant un ours, même de près.
T'as pas eu peur, mais est-ce que t'as eu des moments particulièrement difficiles psychologiquement, l'ennui, je sais pas?
Mais je dois dire, sur les ours, au contraire, j'en ai pas rencontré tant que ça, mais rencontrer un ours, c'est un signe de bonne fortune. Ah. Donc moi, j'aime ça rencontrer des ours quand ça donne. T'allais dire, excuse?
Ben, si t'as eu des moments difficiles de découragement parfois.
Ah oui, ben oui. Oui, oui. Peut-être pas... Oui, oui, j'ai eu des moments de découragement, c'est sûr. Quand tu deviens... Des fois, j'ai poussé la machine un peu fort. Il faisait chaud, justement. Il a mouillé une semaine. Il a fait chaud une semaine. T'es brûlé, là. T'es un peu épuisé. Ça m'est arrivé d'être... je dirais pas découragé, mais d'être au bout de mon rouleau puis de me dire, bon, ou j'arrête une couple de jours ou je sors du bois. Mais ça t'arrive souvent au quotidien quand t'as une grosse journée. Puis là, tu as l'impression que tu vas arriver bientôt, mais t'arrives pas. Mais c'est pas, je dirais pas, c'est pas du mode du découragement, c'est plutôt juste que tu es tanné, là. Ou que tu, dans certains États, comme la Pennsylvanie, c'est de la roche pendant des centaines de kilomètres. la roche friable, là, ce qu'on appelle du scree, là. Et ça, c'est de la roche fait chaud, là. C'est pas agréable.
As-tu eu des magnifiques moments dont tu te souviens, des beaux souvenirs de randonnée?
Oui, des souvenirs de vue, de point de vue, absolument magnifiques. Des souvenirs juste d'être bien dans la nature. C'est un souvenir général tout le temps. Mais je dirais pas que c'est les plus beaux souvenirs. C'est ça, c'est des souvenirs de beauté. Sur l'Appalachian Trail, il y a beaucoup, beaucoup de beauté. C'est extraordinaire, mais c'est pas toujours nécessairement la beauté du sommet que tu vois ou la beauté à partir du sommet. C'est la simple beauté là, dans le sous-bois quand il y a pas de bruit ou il y a du bruit. C'est juste des bruits d'oiseaux puis tout ça. Donc ça. Mais je dois dire que j'ai fait aussi de la randonnée sur d'autres continents. Donc, il y a depuis longtemps, dans ma tendre jeunesse et jusqu'à récemment, dans les Himalayas, dans les Andes, en Amérique du Sud. Et là, pour la beauté des montagnes, ça surpasse tout, là. des endroits là, où je me suis assis, là, puis j'ai pleuré pendant des heures comme un bébé, tellement j'étais ému devant tant de beauté et de spiritualité.
Michel Marcouillet à l'aventure aujourd'hui pour se raconter. Bon, beaucoup de randonnées, c'est pas ses seules passions, Michel, t'en as d'autres aussi.
Bien, là, je viens de me blesser, Puis, donc, je suis supposé d'être calme, donc je devais partir justement sur continuer l'Appalachian Trail cet automne, donc j'ai mis ça de côté. Et mon objectif, c'est d'être en forme pour la saison de ski alpin.
Parce que toi, en fait, tu passes ta vie à regarder passer les arbres. Quand c'est pas en marchant, c'est à ski.
Oui, j'aime beaucoup les arbres, la forêt. D'ailleurs, quand j'étais jeune, une de mes jobs d'été, je travaillais dans le bois, moi, quand j'étais jeune, mes jobs d'été. C'est-à-dire, j'étais pour une compagnie d'exploitation forestière comme assistant mesureur de bois. Donc, des arbres, dans ma vie, j'en ai vu beaucoup, oui. Et donc, je fais du ski l'hiver, oui.
Bon, randonnée, ski, on peut conclure que tu es à la retraite, hein?
Oui, ça fait 7 ans que je suis à la... Ben, 7 ans à peu près, là. C'est 5 à 7 ans.
Et qu'est-ce que tu faisais comme métier?
Moi, j'ai... mon premier métier, c'était en affaires internationales. J'ai travaillé presque 5 ans au ministère des Affaires extérieures, qu'on appelait dans le temps étrangères du Canada, comme diplomate, où j'ai fait un stage à Ottawa, où j'ai travaillé, entre autres... comme jeune agent, évidemment, dans la section de l'Asie de l'Est, sur les affaires chinoises, entre autres. J'avais un mentor qui m'a guidé là-dedans. C'était passionnant. Là, on est en 1974, là. Et c'est une autre époque, évidemment. Et je suis allé en poste au Bangladesh. J'ai quitté les affaires étrangères, puis je suis pas gêné de le dire. Je suis allé là un peu en opportuniste, parce que moi, je suis un... Comment dirais-je? Je suis un fervent de liberté, puis au plan de l'identité, ça commence comme tout jeune, mais avec le sentiment que je peux pas avoir de liberté totale s'il n'y a pas d'indépendance du Québec. Là, on est rendu ailleurs, là, évidemment, mais je suis demeuré un fervent... pas radical, là. Je ne suis pas un intégriste, mais indépendantiste. Donc, quand je suis allé aux affaires extérieures, je me suis dit, je fais au maximum 5 ans, puis je quitte parce que je suis un indépendantiste. Ça va être une belle expérience. Et je suis parti au bout de 5 ans, comme je me l'étais dit, un petit peu moins. Et après ça, je suis retourné aux études pour le fun. J'avais étudié en administration des affaires, moi. Et je suis retourné aux études à l'UQAM en relations internationales pour le fun. Mais bien vite, je suis retourné à l'international, au ministère des Affaires internationales du Québec, où je me suis retrouvé dans le groupe, premier groupe qui a monté un programme de relations avec les États-Unis, ce qui éventuellement, je coupe des bouts là, mais qui éventuellement m'a amené en poste à la délégation générale du Québec à New York, comme chargé des communications. Puis après ça, je suis revenu à Québec où j'étais responsable adjoint du sous-ministre pour les questions internationales, relations fédérales provinciales au ministère de l'Énergie. Et je coupe des bouts, là. J'ai été à Hydro-Québec comme, entre autres, responsable d'ouvrir le premier bureau d'Hydro-Québec. Je ne suis pas sûr que ça existe encore à Ottawa pour développer des relations, disons, qu'on appelait d'affaires avec le gouvernement fédéral dans le temps. Et après ça, j'ai fait de la consultation. J'ai été chez Optimum Cossette Communication. J'ai été aussi, et ça, c'était mon avant-dernier job, directeur des communications affaires publiques pour Bombardier Produits Récréatifs, donc au siège social. Et je travaillais surtout à l'international à ce moment-là. Et à la fin, comme chef des communications, chef principal des communications chez Donta, j'ai fait de la consultation pendant un certain nombre d'années aussi en affaires publiques.
Comme beaucoup de gens, on sent qu'il y a eu plusieurs travails successifs. On change souvent dans une vie maintenant. Hein?
Oui.
C'est à peu près toujours comme ça?
Moi, c'est que je dis pas que je me tanne vite, mais j'ai toujours bougé. Puis c'est comme si... c'est ma curiosité. C'est la curiosité d'apprendre de nouvelles choses, de me retrouver dans des nouvelles situations. C'est... dans des nouveaux milieux, de me mettre sur la sellette un peu pour voir, on en parlait un peu, ce que je vaux. Parce que on se le disait, hein, on est souvent, en tout cas, beaucoup de gens sont là pour se prouver dans la vie, pour chercher de la reconnaissance. Puis moi, de la reconnaissance, personnellement, j'ai rien contre les gens qui font ça. Dans un métier, toute ma vie, en grandissant les échelons, je la voyais ailleurs parce que je voulais découvrir des choses.
Mais la multiplicité de ces mandats, de ces travaux, mm-hmm. c'est pas pour arriver à une réussite financière, pour avoir toujours plus
non,
d'argent, ça n'a rien à voir.
Au contraire.
C'était les défis nouveaux à relever.
Oui, au contraire, ça n'a pas été payant de faire ce que j'ai fait, de changer de job à changer de job, là. Ouais. Au contraire, si j'étais resté dans le même job... Dès le départ, ça aurait été beaucoup plus payant et stable, oui. Et beaucoup plus de notoriété et de reconnaissance, sans doute, oui.
Bien, parle-moi de ta relation à l'argent.
Ma relation à l'argent, j'ai jamais manqué d'argent. J'ai toujours travaillé fort depuis l'âge de 16 ans que je travaille l'été. Donc, ça n'a jamais été un problème, mais pour le moment, j'ai pas de, disons, de fonds de pension, tout ça, mais je suis très confortable. Et je suis... Je l'étais peut-être... j'ai pas lu le livre de Max Wien, là, qui dit « N'as-tu vraiment besoin, là? » Mais c'est la question principale que, dans notre société de consommation, c'est pas facile, là, que je me pose. « En as-tu vraiment besoin? » Donc, je résiste la plupart du temps, mais je vis une vie... confortable, mais relativement modeste, je me prive de rien. Puis si jamais j'en manquais, ben là, on verra bien.
Ça a commencé, tout ça, en Mauricie?
Oui. Moi, je suis... nominalement, je suis né à Shawinigan, mais mon premier lieu de résidence, puis je suis fier de le dire, c'est un petit village qui s'appelle Charette, Notre-Dame-des-Neiges de Charette, qui est à côté de Saint-Élie-de-Caxton, mais qui, avant l'arrivée de Fred Pellerin, était beaucoup plus célèbre que Saint-Élie-de-Caxton. Beaucoup plus beau, à mon avis aussi, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais toute ma famille vient de là, moi. Mon ancêtre est arrivé ici dans les années 1725-30. Puis, il était un arpenteur qui s'était établi... dans le coin de Yamachiche. Donc, il a fait l'arpentage des terres du Saint-Laurent dans ce coin-là. Et Charette, c'est derrière, c'est vers Shawinigan. Et éventuellement, la famille s'est établie dans ce coin-là. J'ai grandi à Grand-Mère et à Shawinigan à partir du moment où je suis allé au secondaire, au séminaire Sainte-Marie de Shawinigan. Non, j'ai un frère et une sœur. Mon frère a 8 ans de plus jeune que moi, ma sœur 2 ans de plus jeune que moi, je suis l'aîné. Pour moi, Shawinigan, grand-mère, c'était le paradis, là, à cause de la nature, entre autres, mais à cause de l'école. J'ai toujours bien aimé l'école, j'ai été négligent parfois, puis c'est des purs moments de bonheur, et du sport, parce que moi, ma vie au séminaire, c'était deux choses, c'était le sport, donc d'être partie coach d'équipe de sport du collège, des gros clubs qu'on appelait dans le temps, le grand club, faire le grand club du séminaire. Hockey, football, surtout football principalement, mais j'ai joué au hockey là, tout mon secondaire. Et c'était les chums au séminaire, je sais pas, c'était toute ma vie, c'était le fun. Et la politique. On avait fondé, mon chum Raymond et moi, là, ça s'appelait le Club d'information politique. On invitait toutes sortes de monde, c'était bien le fun. Tous les grands du Québec sont passés à notre table, si on peut dire. On a interviewé beaucoup de monde. Puis on a mis, le Club d'information politique, mais c'était aussi le Club d'agitation politique, où on a été... parmi ceux là, qui ont fait de l'agitation là, en 68, là, avec la crise des cégeps et tout ça. Là. Donc, puis après ça, j'ai fait un an au Collège des Jésuites à Québec et j'ai fait mon administration à l'Université de Sherbrooke. Mais pour revenir à Shawinigan, c'était l'époque où Shawinigan était une ville très, très riche. C'était la deuxième ville la plus riche au Canada, grosse industrie, etc. C'est plus ça maintenant. Mais c'était l'endroit idéal pour grandir, pour moi, tu vois, avec la forêt, la nature, la famille, tout ça, c'est le bonheur.
Les amitiés et les amours à l'adolescence?
Je suis un homme très sensible, hein, très... J'aime beaucoup l'amour et les femmes. Ça correspondait à une époque où j'étais un petit peu religieux aussi. Enfant de cœur chrétien qui me fermait les yeux, puis je voyais le bon Dieu en toutes sortes de couleurs. Mais ça a changé, évidemment. Mais Oui, j'aimais beaucoup les filles, oui. Je me souviens encore comme si c'était hier de mes émotions là, d'adolescence.
Oui, tu aimais les filles, mais en as-tu aimé une?
À ce moment-là, une à la fois. Mais disons, j'ai été pendant des années avec la même femme. Là, je suis célibataire, mais j'ai pas été avec la même femme tout le temps, si je peux dire ça.
Mais à l'époque, la découverte, un jeune homme religieux comme tu étais, la découverte de la sexualité et tout ça, à l'époque, à Shawinigan.
C'est ça. Quand j'ai commencé quand mes émotions ont pris le dessus avec les femmes, ça a remplacé l'émotion de la religion, disons.
Comment ça?
Tout d'un coup, ça a complètement arrêté. Je sais pas pourquoi. Puis après ça, quand je suis parti de Shawinigan, ben là, c'était d'autres choses. Là. C'était plus... c'était fin des années 60, c'était l'époque hippie, c'était... j'ai pas été dans des communes, mais j'étais dans cette mouvance-là. Là. Donc là, c'était d'autres choses. Là. C'était plus olé-olé, si on peut dire. Ouais.
Avais-tu des choses que tu aimais vraiment pas à l'époque, dont tu te souviens?
À l'époque de mon adolescence?
Ouais.
Je pense que c'est toujours dans la... Mais je le sens probablement moins à cette époque-là. Comme on se disait tantôt, tu cherches toujours un peu la reconnaissance. Et disons que pour l'essentiel, le 90%, j'ai eu beaucoup de reconnaissance. T'es bon, t'es fin, on te met en charge de ça. Mais il m'est arrivé une couple de fois, mettons, où tu changes de coach au football. L'année d'avant, tu es sur l'équipe de l'Étoile de la Ligue. L'année d'après, tu joues sur le banc pendant un petit bout de temps. Là. Donc,
tes coups durs, c'était dans ce type de choses-là?
Oui. D'autres coups durs qui me sont arrivés, puis là, ça me remonte tout de suite, là, avec beaucoup de tristesse, c'est de... puis là, ça touche l'amitié. C'est quand j'ai eu des amis adolescents qui sont décédés, des bons chums, là. Dont, entre autres, dans un accident d'auto où j'aurais pu être, là. Donc, je dois dire, puis encore maintenant, parce qu'évidemment, la mort nous suit partout, je suis beaucoup plus serein, mais dans le temps, là, j'étais assez révolté, là.
Est-ce que tu souhaitais des changements sociaux? Tu parlais de l'époque de la contre-culture, en fait, où t'as donné dedans la contre-culture.
Bien, je suis un gars relativement modéré. C'est-à-dire que moi, une des choses avec lesquelles j'ai de la misère, c'est les églises. Puis dans la contre-culture, il y a eu des églises aussi, tu sais. Puis il y en a encore, tu sais. Donc j'ai bien, bien de misère avec ça. Moi, ma valeur fondamentale, c'est la liberté. Puis la première forme de liberté, c'est la liberté de penser. Puis l'absolutisme, puis l'ignorance, évidemment, c'est des ennemis de ça, en tout cas, c'est des mauvais côtés.
As-tu hésité déjà pour ton avenir quand tu as décidé d'étudier en administration, par exemple, en gestion?
Ouais.
Est-ce que tu as hésité pour prendre autre chose aussi?
Oui, quand je suis parti du séminaire, je voulais aller en droit. Mais j'avais cette idée que le droit, c'était assez... Il m'est venu l'idée éventuellement, je m'étais inscrit, tout ça, que le droit, c'était soft. C'était moins intéressant. C'était un milieu qui m'intéressait peut-être moins non plus. Et c'est là que j'ai fait une année de plus pour faire des maths, tout ça, pour aller en administration, où là, je pensais que c'était là que j'allais chercher une formation plus générale, en économie, entre autres, parce que pour moi, si tu ne sais pas comment la société fonctionne, donc en économie, entre autres, il t'en manque un bout. Donc, oui, puis j'ai commencé, donc je me suis réorienté vers l'administration. Je suis rentré en administration à McGill. J'avais été admis aux endroits, à toutes les universités où je m'étais présenté. Mon père, qui a travaillé au Canadien national comme Canadien-Français, à cette fête, bossé par des Anglais toute sa vie, était bien fier que j'aille à McGill, tu sais. Mais c'était à l'automne 70, puis quand l'armée a occupé McGill, ou en tout cas a encerclé McGill pour la protéger, j'ai senti que ma place n'était pas là. Donc c'est là que je suis allé à Sherbrooke. Mais Pour moi, la formation universitaire, c'est un élément, mais je suis allé faire des études en Sciences Po par la suite. Mais c'est un élément de ta formation. Je pense que à l'heure actuelle, depuis que je suis à la retraite, j'apprends beaucoup plus que lors de mes années universitaires.
Quand tu penses à tes moments d'études, tu peux-tu me trouver un événement qui est pour toi un des grands souvenirs de ta période d'étudiant? Ça, tu t'oublieras jamais ça, tu sais.
Ben, écoute, c'est les grands moments de ma période d'études, moi, c'était les chums à l'université. Et c'est des chums, entre autres, que j'ai encore. Ça fait combien? Ça fait 45 ans plus tard, là. Que j'ai encore, peut-être pas comme amis intimes, mais des... Et on avait fait en administration, on était une petite gang de poteux, là, en administration, avec un prof qui avait fait son PhD en Californie, puis qui était dont Hans Selye était le mentor. Et on avait fait ce qu'on appelait dans le temps un T-group, comme expérience de formation en administration, mais volet ressources humaines, développement, etc. Et on s'en parle encore. Je voyais un des gars avec qui j'étais récemment. Puis ça, écoute, c'est pas bien relié à l'administration, là, mais c'est quelque chose dont je me souviens. Et à l'UQAM, évidemment, ce dont je me souviens, c'était plutôt l'atmosphère générale de 1977-78 au pavillon Reid dans Sciences politiques, où tu avais des groupes marxistes qui se tabassaient de temps en temps, là. Où il y avait dans des classes des discussions fondamentales sur quelle orientation marxiste était la plus pertinente. Donc, c'est des bonnes expériences, oui.
Michel Marcouillet aujourd'hui à l'aventure avec nous. Michel, le moment de ton adolescence, de tes études, de ton appartenance à l'idéologie, si on veut, indépendantiste québécoise, tu développais des idéaux de société, tu développais un rêve d'une société idéale.
Ouais.
Quand tu vois la société d'aujourd'hui, ça te fait quoi?
D'abord, quand je vois la société au Québec, je me compte privilégié d'être né, d'avoir grandi et de continuer à demeurer ici. Je pense qu'on est sur la terre parce que j'ai voyagé un petit peu dans ma vie, là, dans les pays pauvres, dans les pays riches. Je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde depuis tout le temps. Et je trouve qu'au Québec, on a quand même, et les gens ne le réalisent pas, là, une société pas mal extraordinaire. Ça ne veut pas dire que tout marche bien, évidemment. Il y a des changements radicaux à faire au plan de l'administration publique. Mais je comprends les politiciens, que les politiciens aient de la difficulté souvent parce que le monde veut des choses meilleures, mais ils ne veulent pas changer. Puis ils veulent avoir des choses qui soulagent leur quotidien, leur santé, etc., mais ça coûte toujours trop cher ou il y a trop d'impôts, etc. Évidemment, les politiciens tablent là-dessus. Donc, il y a beaucoup d'égoïsme aussi. Évidemment, il y a tout le débat sur l'immigration, etc. Moi, je trouve ça extraordinaire qu'il y ait des immigrants ici. A priori, j'aimerais qu'il y en ait plus. Et c'est pas parce que je suis un caquiste, là, j'ai rien contre, là, mais on intègre mal nos immigrants. Et les immigrants s'intègrent mal aussi. Mais ça, c'est pas parce que c'est le Québec, c'est partout ailleurs. Puis je pense qu'on est... Donc moi, mon idéal, c'est, sans aller dans les ismes, là, c'est que je trouve qu'on a une situation extraordinaire pour que le Québec devienne encore meilleur avec le monde qui arrive ici, mais dans la mesure où on forme quelque chose de nouveau. Je ne crois pas à l'assimilation, mais je crois à la transformation, disons, de la société avec tout le monde qui fait sa part.
Tu crois encore à l'indépendance du Québec?
C'est-à-dire que je ne peux pas me prononcer est-ce que ça va arriver ou pas. De ce temps-ci, évidemment, il y a de quoi à être dubitatif, mais fondamentalement, je demeure convaincu. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent « ça n'arrivera jamais ». Le Canada, c'est pas si pire. Moi, je trouve que le Canada, c'est un pays factice. Je pense que je connais assez le Canada. J'ai travaillé ici et là au Canada. J'ai été dans le gouvernement fédéral. J'ai représenté le Canada à l'étranger. Donc, je connais un petit peu ça. Et je m'intéresse beaucoup au Canada de tout le temps. De tout temps. Et c'est pas mon pays. Mon pays, c'est le Québec. Je ne veux pas faire la révolution contre le Canada. Et donc, dans ce sens-là, pour moi, c'est l'idéal qu'on devrait avoir et vers lequel on devrait pousser.
Tu as été en communication parmi tes multiples mandats dans ta vie.
Oui.
Comment tu juges l'attitude actuelle des médias? Les médias classiques, mais oui, les médias sociaux aussi.
Moi, au départ, j'ai toujours jugé les médias de par la qualité de l'information, la pertinence de l'information et cette capacité d'intéresser le monde. C'est-à-dire, on peut pitcher des nouvelles, mais si ça n'intéresse pas le monde, comme j'étais un l'éditeur de petits journaux d'entreprises et d'autres, puis quand j'avais à recevoir des histoires ou à coacher des gens qui me donnaient des textes et disaient « Écoute, c'est quoi l'histoire? C'est quoi ton histoire? » Donc, il y a cette faiblesse-là. Évidemment, on est dans une époque, on parlait de notoriété, on parlait d'impermanence. une époque extrêmement matérialiste, extrêmement narcissique. Et donc... J'ai confiance que les médias vont durer. Il y a des défis. Il faut que le monde soit prêt à payer aussi. C'est pas tout le monde qui va vouloir payer, mais ceux qui ont de l'argent puis qui s'intéressent aux médias puis qui peuvent dépenser cet argent-là un petit peu, ça coûte pas si cher que ça, ou ailleurs, comme on le faisait dans le temps, là, qu'ils le fassent.
Y a-t-il des médias qui sont restés assez purs pour transmettre ce genre d'informations-là?
Ben moi, pour moi, je crois au devoir. De tout temps. Et je crois à l'international, un journal comme The Guardian, où je te parle d'abonnement, là, où le New York Times, les journaux américains absolument extraordinaires comme information. Je m'intéresse beaucoup à l'information américaine. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de qualités, mais on est ailleurs, quelque part. Mais c'est un phénomène de société qui n'a pas juste à faire avec les médias. C'est un phénomène sociologique. C'est pour ça qu'il y a une commission parlementaire qui s'ouvre aujourd'hui, là, à Québec. Là. J'ai bien peur qu'on ne se posera pas des questions fondamentales pour aller au fond des choses puis se dire, bon, ben on est là, là. Est-ce qu'on va donner 5 millions de plus à Capital Média? Des fois, je regarde, je ne veux pas porter des jugements sur un journal en particulier, mais je regarde des journaux régionaux ou des plus petits journaux, je trouve que c'est mince un peu. Donc, d'encourager des journaux à coups de millions qui sont minces puis qui attirent pas le monde plus que ça, qui éveillent pas le monde plus que ça, je me demande si ça vaut pas mieux de les laisser mourir, personnellement. Mais s'il n'y a pas de remplacement, ben allons-y, mais soyons conscients que c'est pas nécessairement une panacée.
Est-ce que tu fréquentes beaucoup les médias sociaux?
Pas vraiment, non, un petit peu, mais pas vraiment. Je suis conscient de ce qui se passe. Je suis conscient aussi que c'est une drogue absolument extraordinaire. On a toujours été dans des univers de drogue. La drogue, je connais un petit peu ça. Et la drogue, ça a été la religion. La drogue, ça a été évidemment de tout temps le matérialisme, l'argent. C'est l'alcool, c'est des béquilles, tout ça. Et là, on est devant une drogue avec l'intelligence artificielle, etc., qui est tellement puissante qu'il faut être conscient que les remèdes à ça sont plus fondamentaux qu'on puisse penser, puis qu'ils vont prendre plus de temps. C'est pas des plasters qui vont régler ça.
Le monde des arts, tu fréquentes beaucoup?
Ben beaucoup. Je m'intéresse beaucoup à la culture. Je lis pas mal. J'ai lu beaucoup dans ma vie. Je suis très curieux à la fois sur les classiques et sur de la littérature un petit peu moins, je dirais pas mainstream, mais moins locale, disons. J'adore les arts visuels. faire des musées, là, à un moment donné, là, j'arrête parce que j'en ai fait beaucoup. Mais l'émotion de l'art contemporain surtout, maintenant, pour moi, ça m'émeut beaucoup. Les arts visuels m'émeuvent beaucoup, et évidemment, le cinéma.
Oui, mais beaucoup ce que fait Marc Séguin de ce temps-là.
Oui, mais il y a aussi des effets de mode, là. Marc Séguin était à mode. Dans le temps, moi, c'était Riopelle, je suis vieux jeu, tu sais.
Actuellement, le lien entre Riopelle et Marc Séguin, c'est extraordinaire. J'ai vu l'exposition hier où il y a les deux.
Oui.
C'est fabuleux.
Non, j'en ai vu des expositions de Marc Séguin aussi, puis moi, j'étais un fan de Riopelle. Et on revoit des thèmes aussi, là, à un moment donné, il y a une couple d'années, là, il faisait une espèce de chevreuil orignal, mais ça ressemblait aux oiseaux différemment là, de Riopelle. Mais donc, un gars comme Marc Séguin, j'ai beaucoup d'admiration, c'est un multidisciplinaire, c'est ça qui est extraordinaire. J'aime beaucoup le cinéma, le théâtre aussi. Donc, j'aime beaucoup les arts, oui. C'est beaucoup, très important.
Cinéma, t'as des préférés?
J'aime les choses un peu éclatées. J'aime les choses peut-être un petit peu plus intellectuelles. Donc, dans ma jeunesse, là, c'était très scandinave, etc. Très français, là, Nouvelle Vague. Très américain, mais américain de Scorsese à Tarantino, avec tout ce qui... J'aime le cinéma qui vient me chercher. J'ai pas peur du sang, disons, pourvu que ça ait un certain sens. Au Québec, je trouve qu'on a du cinéma absolument extraordinaire. Le documentaire et des gens qui vont me chercher un petit peu. Un gars comme Forcier, par exemple. Ça, c'est un gars que j'adore. Arcan, dans certaines époques. Non, on a l'extraordinaire cinéma québécois aussi. Donc, ça m'intéresse.
Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour être pas mal encore de bonne humeur? Être heureux, si on veut employer des gros mots?
Ça m'a aidé dans ma vie. Des fois, ça m'ennuie. Mais c'est mon cœur d'enfant. Je me sens encore jeune. Je me suis tout le temps senti jeune. Il m'arrive des choses. Des fois, je me dis, je vois le verre. C'est exactement la même chose qui m'est arrivée au camp des Louveteaux à Mont-Carmel, je sais pas quoi, là, quand j'avais 8 ans. Là. Tout le monde va dire ça quand on vieillit. Là, j'ai 70 ans quand même. Là. Mais je me sens encore jeune. C'est pour ça que des fois, il faut que je me contrôle. Mais... oui, c'est mon cœur d'enfant, je me sens...
Mais tu fais ça consciemment?
Ah non, ben, je peux le faire des fois consciemment, là, parce que je ne suis pas inconscient, là, pas tout le temps en tout cas. Mais oui, dans mon attitude consciemment, mais c'est surtout inconscient.
Donc, tu gardes une certaine ferveur, même une naïveté volontaire pour être prête à engranger des nouveautés.
Oui, il faut que je me... Là, ça fait un petit bout de temps que je l'ai toujours été, là, mais à me poser des questions sur est-ce que je suis assez radical dans la vie? Est-ce que je suis assez libre? Est-ce que je peux pas donner une coche de plus? En me disant, on a un ami commun là, qui parlait du drop-in, drop-out, puis de la responsabilité des baby boomers de continuer à être actifs dans la vie, etc., en support aux générations qui suivent. Mais c'est ça, c'est une réflexion que je me fais. J'ai un petit côté radical, contrôlé, mais je trouve que je suis peut-être un peu trop tranquille.
T'as pas d'enfant?
Non.
T'en aurais voulu?
À une époque, oui. J'ai eu des réflexions là-dessus. J'aurais pu en avoir. Ça n'a pas fonctionné. Mais j'adore les enfants. Et je suis proche des enfants encore, oui. D'abord, j'enseigne le ski à des jeunes à partir de 3 ans. Donc, je ne change pas leur couche, mais je suis au courant des pipis, puis des pleurs, puis tout ça. Puis j'ai des neveux que je viens de quitter, là. Ils ont été ici 2 mois, passer des vacances. J'ai des enfants proches d'anciennes blondes, etc., avec qui je suis encore assez en contact, tout ça. Donc, non, j'adore les enfants. J'adore enseigner aux enfants.
Quand tu fais le bilan de ta vie amoureuse, ça donne quoi?
J'ai connu des femmes extraordinaires. J'ai composé, pas toujours adroitement, avec... cette espèce de goût de la liberté, donc de passer à d'autres choses, mais qui était peut-être une forme de non-engagement, et qui l'était sans doute. J'aime beaucoup la solitude, puis j'aime beaucoup être moi-même. Et c'est pas incompatible d'être avec quelqu'un. Et là, je suis célibataire depuis un an ou un peu plus. Mais je suis très, très bien avec, parce que je suis pas cloîtré dans ma maison sur le bord de la rivière, là. J'ai des amis, en fait, qui sont des relations depuis bien longtemps, là, de qui je suis proche. Sans que ça soit un objectif, là, mais j'haïrais pas redevenir en couple. Et je pense que mes réflexions des dernières années, puis le travail que je fais sur moi-même, si je peux dire, me prépare bien à avoir une vie de couple. Ouais.
En 70 ans, là, oui. Tu commences à y penser, là?
Non, c'est pas ça. J'y pense depuis tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que j'ai 70 ans que j'arrête d'y penser.
Bon, ben parlons-en, là, pour terminer cette émission. Vieillir, mourir?
Écoute, je suis... D'abord, vieillir, c'est peut-être cette année que je commence à sentir que mon corps vieillit.
C'est tes genoux qui...
C'est mes genoux. Mais c'est aussi, je me suis poussé un petit peu à randonner. J'ai eu une période d'épuisement. Là, j'ai senti que, j'avais 70 ans. Sinon, je me sens encore tout jeune et prêt à faire toutes sortes de folies. Par rapport à la mort, c'est pas nouveau, là, mais je travaille beaucoup sur sur ma spiritualité et la vie et la mort. Dans mon univers spirituel,
précisément,
sont la même chose.
Tu fais quoi pour...
Je fais de la méditation, je lis, je réfléchis, je pense. J'ai été beaucoup entouré de morts, j'ai accompagné des gens qui sont morts. Je suis inspiré, disons, pour moi, c'est pas une religion, c'est plutôt une philosophie par le bouddhisme. En bref, là, je serais prêt à mourir demain. Je suis prêt.
OK. Si tu meurs demain, qu'est-ce qu'on devrait penser? Qu'est-ce qui te ferait plaisir qu'on pense de toi?
Sais-tu quoi? Il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, là, c'est quelqu'un de célèbre, là, c'est un philosophe, là, Tu continues à vivre tant qu'on prononce ton nom. Hein? Tant que tu... En fait, c'est pas qu'on prononce ton nom sur la place publique. La notoriété... Moi, j'ai encore dans mon cœur mes grands-parents. Ils continuent à vivre. Ils sont morts, mais ils continuent à vivre. C'est ce que j'espérais, mais dans le fond, là, je m'en sacre pas mal. Parce que pour moi, là, quand je vais mourir, ça va faire pouf. Puis moi, ça me dérangera plus. Puis je crois pas à la vie après la mort. Puis c'est comme si j'avais jamais existé. Donc ce qui restera de moi, ben là, c'est la vie maintenant qui compte pour moi.
Si ça vous dit, il y aura une prochaine aventure dans une semaine. À la mise en onde, Jean-Sébastien, La Liberté. Une semaine.